Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue aux Apatrides Anonymes en direct des studios de choc.ca. Émission du 30 janvier 2020, notre deuxième de l'année, de la nouvelle année. Donc, bienvenue pour une heure de contenu sur les enjeux de racisme, sécurité nationale et immigration. Donc, aujourd'hui au programme, ben, peut-être je vais me nommer en premier, c'est Mathieu qui est au micro. Simon est avec moi. Pour l'instant, la mise en onde.
Bonjour. Salut.
Bonsoir, bonsoir. Et dans quelques instants, il va venir faire une entrevue avec Will Prosper, qui est notre invité.
Salut.
Bonsoir, Will.
Ça va?
Ouais, oui, toi?
Ouais, ouais, ça va.
Cool.
Merci.
Donc, aujourd'hui à l'émission, une entrevue donc avec Will pour nous parler de son nouveau film, mais on va parler aussi de deux, trois autres sujets d'actualité parce que c'est quelqu'un de très intéressé à ce qui se passe ici et ailleurs. Sinon aussi, on va vous faire un peu notre deuxième partie du bilan 2019. Une partie plus locale, nationale, une partie plus internationale. On avait commencé il y a deux semaines. On a fait aussi nos prédictions aléatoires et humoristiques pour l'année 2020, entre guillemets. Et donc, on va en faire une dernière à la fin de l'émission. Marie-Ève est absente aujourd'hui. Elle revenait aujourd'hui de l'extérieur, mais on a une petite capsule d'enregistrer, une petite nouvelle qui est passée dans le beurre à la fin de l'année 2019, dont on va vous parler, dont elle va vous parler finalement en pré-enregistrement plus tard dans l'émission. Et si on a le temps, il y aura l'agenda militant antiraciste des deux prochaines semaines. Et évidemment, il y aura de la musique au courant de l'émission. Donc, l'émission des Apatrides, aux deux semaines, les jeudis à 18h30, puis nous écouter en balado en tout temps. Cette émission-là sera en onde, pas en onde, mais en balado à partir de ce soir ou demain matin. Donc, pour nous, allez voir notre site internet aussi, apatridesanonymes.info, et notre courriel est apatridesanonymes@resis.ca. Donc, voilà, on va y aller avec quelques notes de musique, et on y va en entrevue ensuite avec Will Prosper pour le film Kenbala, jusqu'à la victoire.
Will Prosper, salut.
Salut, merci.
Ça va, mais merci de venir nous voir en studio. C'est très gentil d'avoir accepté l'invitation. J'imagine que tu es en rush actuel médiatique pour la promotion de ton film.
On peut le dire, un peu. Mais je pense que c'est important de faire la tournée, là. Mais je suis vraiment content d'être ici. Puis c'est la première fois que je suis en onde sur Choc. Fait que c'est vraiment un plaisir.
Peut-être pas la dernière.
J'espère que non.
On verra. C'est un peu un test. On verra si c'est intéressant. Ça sera
c'est pour savoir.
Donc, on t'invite. Ben oui, le premier chapeau que tu portes, c'est en tant que réalisateur. Ton premier film, je crois.
C'est mon cinquième.
Mon Dieu.
Ouais, cinquième documentaire. C'est le premier.
Recherche.
Ouais, c'est ça. Ça commence mal, hein? En fait, je sais pas si c'est moi qui va vouloir revenir.
Non, ok, c'est comme un test à deux sens, là, c'est ça?
C'est ça. Non, c'est mon cinquième. C'est le premier long métrage, donc, que je fais, qui sort prochainement à la Cinémathèque québécoise, donc, demain, en fait.
Qui était déjà, qui avait été présenté dans le cadre des RIDM,
ouais.
Qui avait obtenu, je crois, le prix du public.
Absolument. Donc, je suis vraiment heureux d'avoir eu ce prix-là. Tu sais, ça veut dire que les gens ont pris le temps de dire, hey, ce film-là, là, tu sais, ça mérite d'être vu. Fait que.
C'est le plus beau film, le plus beau prix qu'on peut recevoir.
Absolument,
je crois,
absolument. T'sais. Sinon, on est avec un jury, des critiques, trois personnes. Tu sais pas d'où est-ce qu'ils proviennent. Tu peux avoir un français là-dedans. Ouais, j'ai des préjugés contre les jurys français.
Ils sont souvent à quelque part, les français.
Ils sont partout. Mais c'est pas ça. C'est pas un problème, là, je plaisante bien sûr, mais ce qui est le fun avec ça, c'est que quand t'as le public qui prennent le temps, qui se disent ah, ce film-là, il m'a tellement touché, j'aimerais ça qu'il gagne un prix, puis que les gens aillent le voir aussi, tu sais, puis qu'ils prennent le temps d'aller voter, là, c'est quand même pas rien, puis qu'ils ont dit ah, ce film-là mérite d'être vu, fait que moi, je suis heureux, c'est le meilleur des prix que tu peux gagner en tant que réalisateur ou réalisatrice.
D'autant plus que dans les RDM, le choix est quand même assez vaste, là, on fouillait la programmation ici pour faire des recommandations, c'est hallucinant.
C'est hallucinant, c'est un des plus beaux festivals du documentaire qu'on a au Canada au grand complet. Le choix est fabuleux. Moi, à chaque année, je veux prendre du temps pour juste aller voir les films là-bas tellement qu'il y en a. C'est vraiment une belle sélection. Là. Ça se compare pas à ce qu'on voit des fois avec les hot dogs. box. Souvent, ils vont prendre des films plus léchés, plus connus, hyper populaires, et ainsi de suite. Ici, il y a vraiment des films qu'on n'aura jamais la chance de voir. Anyways, je sais pas pourquoi je fais la promotion des RIDM.
On va parler de ton film.
Merci.
qui est un film, qui est un film que j'ai l'impression qu'il a été tourné sur une assez longue période, puisqu'on suit, c'est Alain Philoctète, qui est un, il est difficile à définir, parce qu'il est, il a l'air d'être à la fois poète, enseignant, militant, chercheur. Toi, à la base, tu le suivais plus pour ses projets en Haïti. Projet de permaculture.
Absolument.
Je sais pas si ça vaut la peine d'expliquer c'est quoi la permaculture.
Ben, la permaculture, c'est une technique qui est souvent développée ici avec Jean-Martin Fortier, d'avoir, on a juste à parler de monoculture, en fait. Okay. Tu sais, les champs de blé d'Inde a pu en finir. Ben, c'est le contraire de ça. Donc, c'est faire un mélange de produits de la terre qui vont s'entraider les uns les autres pour pousser sans machine puis sans engrais, donc dans un milieu beaucoup plus naturel. Donc c'est un peu ça la permaculture.
Donc c'est à la fois environnementalement plus intéressant parce qu'on épuise moins les terres. On peut subvenir aux besoins locaux.
Absolument, tu épuises beaucoup moins les terres, t'en prends beaucoup plus soin. Puis c'est ça qui est fascinant quand tu étudies les plantes. Tu vois pas un endroit sur la planète où est-ce que t'as juste normalement là avant que l'homme passe, tu vois pas un endroit où est-ce que t'as juste même type de végétature. La plupart du temps, elle se mélange. Puis plus elle se mélange, plus elle produit. Parce que chacun va amener quelque chose à l'autre. T'sais. Fait que la diversité, c'est toujours une bonne affaire. Fait que c'est un slogan que je devrais utiliser des fois quand je vais parler dans des conférences antiracistes, je pense. Mais ceci
étant... On peut faire des parallèles entre la société et la terre, forcément. Hein. C'est des mélanges de cultures là, aussi.
Absolument. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Alain, lui, avec la permaculture, il voit ça comme un moyen pour que Haïti soit autosuffisant. Donc, c'est vraiment un courant politique qui essaye d'insuffler en Haïti, parce que lui, c'est un grand socialiste, c'est quelqu'un qui a milité beaucoup, qui a été chassé du régime Aristide, en fait, pas du régime du Valérisme, mais il a lutté quand même contre Bébé Doc à l'époque, et ça faisait plus de 15 ans qu'il était pas allé en Haïti, et il avait appris juste avant, on savait qu'il avait le cancer de la prostate, et il a fait une analyse, puis on lui a dit « t'auras pas le choix de faire la chimiothérapie ». Et en sachant ça, il y aura pas eu de traitement en Haïti pour faire la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, c'est quelque chose que tu fais jusqu'à la fin de tes jours pratiquement pour éradiquer le cancer. Fait que des fois, tu peux avoir des pauses, mais lui, il savait pas s'il aurait la chance de retourner en Haïti, donc il a décidé « je vais aller en Haïti, puis je vais essayer de voir si je peux essayer de faire la permaculture pendant ce temps-là, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. » Et moi, j'ai décidé de le suivre pour voir c'est quoi son parcours. Quelqu'un qui retournait en Haïti après toutes ces années-là, qui allait voir ses camarades de lutte, qui allait voir des paysans. Et c'est ça qui est fascinant. Il voulait faire sa thèse de doctorat sur ce qu'on appelle les lacours. Les lacours, c'est comme des éco-villages. Et
il en visite un, d'ailleurs. On voit, j'ai eu la chance de voir ton film. Donc, okay, ouais. Il a l'air très inspiré par ce qu'il voit.
Ouais.
Ça a l'air de fonctionner un peu comme une coopérative, en impliquant les voisins, en impliquant un peu tout le monde. Est-ce que c'est des projets qui... Est-ce qu'il y en a beaucoup en Haïti?
En fait, c'est depuis le début de l'histoire d'Haïti. Les Marrons qui fuyaient le régime esclavagiste, ils s'en allaient en montagne, ils rejoignaient les Arawaks, les Taïnos, donc les Autochtones, et ensemble, ils cultivaient la terre pour en bénéficier collectivement. Okay. Donc, c'est pour ça que ce projet-là, collectivement, c'est quelque chose qu'ils viennent chercher. Et là où est-ce qu'on va dans un village à Inch, ben, c'est un éco-village ou un laco, et c'est des gens qui étaient des citadins, donc à Port-au-Prince, et qui, leurs maisons se sont effondrés. Ils ont décidé d'aller créer un lieu à Inch, appuyé par le mouvement des paysans papayes, et ils ont bâti ce lacou-là. Et c'est des gens qui avaient jamais cultivé la terre. Et c'est ça qui est phénoménal avec ça, c'est que avec le peu d'expérience qu'ils avaient, le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont réussi à accomplir quelque chose de grand, et maintenant ils deviennent autosuffisants, ils bâtissent des écoles à travers tout ça, donc c'est vraiment intéressant comme concept. Et quand Alain y va, il va pas comme quelqu'un qui dit « je vais vous montrer comment faire la gang ». Il va vraiment comme « ok, vous avez un paquet de savoir et j'ai besoin de savoir c'est quoi vos connaissances pour qu'on puisse travailler ensemble un jour, que j'apprenne de vous. » Et c'est ça qui fait toute la différence. Souvent, on va voir des personnes qui vont aller dans des lieux comme ça puis qui vont dévaluer le savoir et les connaissances des personnes locales.
OK, qui vont dire, moi, j'arrive avec ma technologie, mes nouveaux savoirs, mes nouveaux engrais
mes diplômes.
Mm-hmm. Et on va tasser tout ce savoir-là qui se transmet depuis longtemps. Mais c'est intéressant que ce soit des gens de la ville qui fait que finalement, ils se recréent une nouvelle communauté.
Absolument.
D'ailleurs, toi, Haïti, je sais pas, ça fait combien de fois que tu allais? Est-ce que c'est...
Je sais pas combien de fois je suis allé assez souvent. Mon père qui militait contre le régime du Valieriste, j'étais beaucoup plus petit, très, très jeune à l'époque. En 87, il a dit, il faut que j'amène mes enfants voir cette terre-là.
Donc, ça fait un petit peu de temps.
Fait que ça fait longtemps, juste pour te dire. J'y retournais à chaque fois, une fois de temps en temps, et ainsi de suite. Et j'ai vu les conditions du pays changer, et puis je comprends un peu le rêve d'Alain de vouloir y insuffler ce type de projet-là de permaculture.
Est-ce qu'on peut quantifier, comme toi tu dis que c'est un mouvement qui est de plus en plus, qui existe depuis longtemps en Haïti, mais est-ce que c'est vraiment répandu? Est-ce que c'est parce que on parle souvent d'Haïti comme la République des ONG où finalement c'est pas les locaux qui décident, puis le gouvernement est soit inexistant, soit corrompu. Donc, est-ce que c'est vraiment un modèle qu'on voit un peu partout?
C'est un modèle qui n'est pas documenté, comme bien des endroits qu'on va voir dans les pays du Sud. Mais c'est une pratique courante. C'est une pratique qui se fait normalement. Et c'est pas quelque chose qu'on écrit, c'est quelque chose qu'on sent. Moi, la première chose que j'avais remarqué quand j'étais là à un jeune âge, c'était le partage que les gens faisaient naturellement, sans se poser de questions. C'est on cultivait la terre, on ramassait des choses, puis après ça, on célébrait ensemble. Puis on partageait tous les bénéfices de cette terre-là. Et ça se fait de génération en génération, et c'est quelque chose qu'on ne documente pas, mais qui est présent en Haïti.
C'est pas nécessairement nommé comme
la permaculture. C'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une grande présence des ONG. C'est une ONG par 1000 Haïtiens. Ça, c'était il y a 3 ans de ça. Donc, on se dit, Chris, comment ça c'est qu'il y a autant de ONG comme ça? T'sais, c'est une autre forme de colonisation, mais ça, on pourra en reparler. Mais tu te dis, s'il y a... Puis ça, c'était plus, je dis 3 ans, mais c'est plus il y a juste après le CIS, environ 5 ans de ça. Parce que je m'en rappelle, j'avais écrit là-dessus et j'avais trouvé ça hallucinant de voir le nombre d'ONG qui étaient venus en Haïti suite au CIS. Et 10 ans après, quand on regarde l'impact que ceux-ci et celles-ci ont eu, on voit que c'est pas un impact qui a été si bénéfique pour la population locale, les Haïtiens. T'sais.
Certaines ONG ont probablement des bonnes intentions, mais c'est pas fait de manière nécessairement concertée où il y a de l'évangélisation, il y a toutes sortes d'affaires comme ça. Mais
tout y rentre. On a vu toutes les religions rentrer avec le CIS. Fait que, puis des fois, juste les ONG, c'est une forme de religion aussi. on pourra en débattre. Puis ce qui est phénoménal dans les ONG, des fois, c'est que j'ai l'impression que les gens disent, tel pays a amené tel nombre de milliards en Haïti, ainsi de suite, tu sais. Et c'est souvent les gens de ces pays-là qui bénéficient de ces montants d'argent-là, tout en augmentant le coût de la vie pour la population locale, parce qu'ils vont aller dans des logements, ils vont avoir des gens qui vont leur offrir des services, des chauffeurs, et ainsi de suite. Fait que tout le coût de la vie augmente, mais les salaires n'augmentent pas pour la population locale, ça fait l'effet contraire. Donc, les ONG, il y a une grande forme d'appauvrissement qui se fait pour la population, et quand on voit la situation haïtienne présentement, mais il y a une grande part de responsabilité par rapport à leurs actions que eux pensent être bénéfiques pour la population.
Sinon, si on revient un peu à ton film...
On est un peu parti.
Non, mais c'est parce que ton film permet ça en même temps pour... moi, je suis jamais allé en Haïti, donc ça m'a permis de voir des images de l'Haïti plus rural, un peu en ville, voir vraiment une Haïti réelle qui n'était pas à travers un filtre soit cinématographique ou soit c'est vraiment comme du direct, on dirait.
Absolument.
On voit les stigmates du tremblement de terre encore aussi dans plusieurs régions. Non seulement les bâtiments effondrés, mais on voit aussi des endroits qui n'ont pas été réorganisés, qui n'ont pas encore été réappropriés par les gens. Donc, on sent qu'il y a encore un travail, même que ça fait 10 ans.
Fait 10 ans, on vient de commémorer le 10e anniversaire. Puis après tout ce temps-là, on voit encore, justement, ce tremblement de terre, puis l'impact que ça a eu sur la population. C'est quand même plus de 200 000 morts, un paquet de personnes qui ont été blessées par ça aussi. Et c'est triste à dire de voir des bâtiments qui sont encore défaits après tant d'années, qu'il n'y a rien qui a été fait. Et ça symbolise beaucoup de choses par rapport au pays. Ceci étant dit, tu sais, ce qui est bien avec ce documentaire-là aussi, c'est qu'on voit souvent ces images de misérabilisme avec les Haïtiens. On est souvent aussi à Port-au-Prince. On a toujours l'impression d'être des voyeurs qui regardent des gens dans une situation extrêmement pauvre. Tandis que là, avec la caméra, comment je la place, c'est complètement le contraire. C'est eux, on va dans des endroits, premièrement, on sort de la ville. Mm-hmm. On s'en va vers les terres. Et ça, on voit qu'il y a des gens qui se prennent en charge, qui s'organisent, qui trouvent des moyens, qui sont capables de faire des choses qui sont peut-être même une solution qu'on peut voir ici. Ici, on a un paquet d'éco-villages qui poussent un peu partout, tu sais. Fait que c'est le fun de voir que, hey, on se reconnaît un peu à travers des initiatives qui sont déjà faites par des gens comme en Haïti. Donc ça, je trouve qu'il y a, il y a une grande richesse là-dedans. Puis c'est le fun de voir des paysages qu'on ne voit jamais dans nos écrans. Puis c'est ça que j'ai essayé de capter, la beauté, la splendeur que ce pays-là. Je savais même pas qu'il y avait des pins, moi, qui est allé plusieurs fois en Haïti. Il y a des pins en Haïti parce qu'il y a des secteurs qui font tellement froid en montagne.
Ou ouais, avant qu'il ait été arraché. Là,
ouais, avant qu'il se fasse arracher. Puis c'est ça qui est triste aussi, tu sais. Puis là, faut penser, bon, ben, tu sais, là, c'est comment qu'on fait pour combattre ça. Puis là, on se dit, ben, ouais, il y a pas d'électricité qui circule partout. Donc, il y a le charbon. Donc, il y a tous ces enjeux-là. En tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent dans le film sans forcément être nommées. Tu sais.
OK. Dernière question sur le film avant de passer à d'autres sujets. Monsieur Philoctète, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est toujours à Montréal actuellement? Je crois qu'il t'accompagne même dans tes parfois dans tes...
Oui, il est venu au lancement au RIDM. Je te dirais que Alain, c'est comme ce qu'on voit dans le film, c'est quelqu'un qui se donne énormément, c'est un battant, c'est quelqu'un qui va se battre jusqu'au bout, et présentement c'est pas facile, il est dans des soins, on pourrait dire beaucoup plus palliatifs présentement.
Okay.
Et sa situation est quand même assez difficile, mais j'étais avec lui tantôt, il était plein d'énergie, il a retrouvé comme je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il avait un paquet d'énergie, il a recommencé à peine parce que c'est aussi un artiste, donc c'est ça, il est beau à voir aller quand même malgré la situation, même si elle est extrêmement pénible présentement.
Peut-être qu'il sent que ses projets prennent de l'envol en Haïti, ça lui donne de l'énergie. On va lui le souhaiter.
On lui souhaite.
Ton film va être à la Cinémathèque, je crois.
Oui, c'est à la Cinémathèque dès demain. Donc, si vous voulez aller vous procurer des billets, ben, c'est à la Cinémathèque québécoise. C'est le 31 janvier pour la semaine au grand complet. Puis, je pense être la semaine suivante aussi. Mais l'horaire est affiché. Donc, c'est demain à 7h30, samedi à 4h30. Puis après ça, j'oublie l'horaire.
On verra pour plus tard. C'est ça. Donc, on va aller en musique avec... Webster 5-4 Trio, pardon, j'ai besoin de prononcer. La pièce Idiocie, là, c'est hors sujet, là, actuellement, là, évidemment. On revient avec Will Prosper dans quelques minutes pour d'autres discussions sur toutes sortes de sujets.
Merci.
J'ai lu tes articles, j't'ai entendu à la radio. Déballer des ordures, c'est insipide, même les radios. Tu penses être une icône, mais t'es une blague et des emojis. À propager des idées connes, théories drab et des motifs. Les doigts sur le clavier, recourbés comme des gâchettes. Mitraillés à la vedelette afin d'augmenter le cachet. Parce que si on veut se le dire, c'est la haine et lucrative. La populace est malléable, quand d'autant plus elle est craintive. Mais l'idiocie n'est pas un mal incurable. Elle s'enracine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur. Puis la peur nourrit la haine. Et si le cœur s'y fiche, il dure la peur pour qu'il l'apprenne. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience, puis grandir, mais sais-tu que tu dis que t'es pas raciste, mais tu détestes les mousselines. Dans tes veines, tu vis la rage comme sur une mousseline. Avant c'était les noirs, maintenant c'est les arabes. Depuis septembre, tout à Zouan, des immigrants indésirables. Tu craches ce que tu penses, tu te trouves pas mal game. Sur tous les blogs et commentaires, trouvés de fautes, amalgame. Mais bro, t'as peur, t'as tort et puis t'as peur. Entre la paresse et la torpeur, encore au progrès, ça t'offre. Mais l'idiocie n'est pas un mal incurable. Elle s'enracine profondément quand le mind est vulnérable. L'ignorance produit la peur et puis la peur nourrit la haine. Et si le cœur s'y fiche, il dure la peur pour qu'il l'apprenne. Le remède c'est l'amour, le remède c'est l'amour. L'esprit il est fertile, faudrait bien qu'on le laboure. Semer la connaissance, parvenir à s'éduquer. Cultiver la patience puis grandir.
que du sexisme, mais aussi l'homophobie, la transxénophobie, aussi l'islamophobie. Profilé selon la classe, l'anthropologie, exclusion, jugé à cause de ton âge, parce que t'es une première nation. Il faut combattre le sexisme, mais aussi l'homophobie, la transxénophobie, c'est l'islamophobie. Profilé selon la classe, l'anthropologie, exclusion, jugé à cause de ton âge, parce que t'es une première nation. Tu trouves que le Québec, il n'est pas assez blanc, alors tu t'es rasé la tête, les bottes de cuir, elle est assez blanc. Peut-être que dans ta vie, il n'y avait rien de marquant. Vomis la merde, chemise brune, jeune Adrien Arcand. Mais c'est fâcheux, maintenant tu trinques les fachos. L'intolérance devenue fashion, et si le virus t'a fauché. Symptômes, le coup de raide et l'identité est frais. La maladie du bras tendu et puis tu tousses. Hey, hey. Mais l'idiotie n'est pas un mal incurable. Ça racine profondément quand le mind est vulnérable.
Très bon texte de Webster dans cette pièce Idiotie. Vous aurez écouté la chanson complète assez longue sur son nouvel album éponyme avec son 5-4 Trio. C'est des musiciens de Québec de jazz prog. Ça te donne un nouveau souffle, un nouveau son à Webster qu'on connaît bien pour son hip-hop depuis plusieurs, son rap depuis plusieurs années. Donc, encore et toujours avec Will Prosper.
Ouais, toujours.
Toujours.
Écoute. Je suis resté jusqu'à maintenant.
Ouais,
merci de pas m'avoir mis dehors.
Non, non. J'apprécie. Puis tu t'es pas sauvé non plus.
Non, pas encore.
Donc, on profite de ta présence quelques minutes encore. Je voulais te parler, ben justement, on en parlait hors ronde, puis avec Webster. On est au lendemain des 3 ans de l'attentat de la mosquée à Québec, il y a 3 ans, donc, commémoration hier à Montréal et à Québec. J'avais envie de te poser une question un peu générale, parce que t'es un militant aussi, t'es auteur, t'es réalisateur, évidemment. Puis, avec tout ce qui se passe depuis 2-3 ans au niveau du racisme systémique, les discussions sur le profilage racial, sur la prise de conscience, ou en tout cas la prise de parole des Autochtones au niveau du colonialisme, la loi 21, la loi 9, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire en ce moment, après 2-3 ans de débat? Comment tu trouves l'état des lieux de ce débat-là, de ces débats-là?
Ah, quelle question, hein?
Ouais,
comment on trouve l'état des lieux? J'aimerais dire qu'on progresse bien, on s'en va vers la bonne direction, puis on reconnaît justement ce que les gens ont mentionné. Tous les inégalités que ces personnes-là subissent, toutes les injustices et ainsi de suite, le racisme, le sexe, ben, aussi la transphobie, on peut rajouter des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que ce discours-là est pas facile à avoir parce que quand on parle de racisme systémique, mais il y a encore une grande présence médiatique qui est couverte par des gens qui sont encore dans ce déni-là. Et moi, c'est ce déni-là qui me fait pas mal mal. Je regarde des collègues des fois qui faisaient partie de Black Lives Matter Toronto. Ok, puis t'avais le maire de Toronto, que je suis pas un fan du maire de Toronto, c'est parce que j'essaie de dire, qui parlait de racisme anti-noir dans sa conférence, puis les gens de Black Lives Matter étaient bouh parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez, tu sais. Mais aussi il y avait eu un autre incident qui s'était produit, et quand je regarde ça, je me dis, moi j'étais assis dans la salle, puis je me disais, j'ai jamais entendu un seul politicien au Québec mentionner quelque chose de la sorte. Et je me dis qu'on est à des années-lumière d'avoir ce type de conversation là parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, puis on le voit avec le terme féminicide, particulièrement maintenant quand on utilise la culture du viol, racisme systémique, on se braque sur les mots au lieu de comprendre comment ils créent des mots, M-A-U-X. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment dommage. On n'est pas forcément à l'écoute. On est plus braqué, puis on essaie de... Ah, non, ça n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que tu dis là? T'sais, puis on l'a pas vécu. Puis à chaque fois, je suis surpris que des gens qui soient surpris que moi, j'ai été contrôlé par la police, interpellé plus de 40 fois dans ma vie. Là, ils font comme 40 fois, ça se peut pas, moi ça m'est jamais arrivé. Ben c'est ça la distinction, tu sais, puis c'est ça que les gens arrivent pas à comprendre. Fait que pourquoi il y a ce traitement inégalitaire qui va faire en sorte que des gens vont être appauvris économiquement, puis qui vont subir d'autres formes d'injustice. Moi, je trouve que ça progresse, mais très lentement. Mais je vois du progrès dans le milieu de la culture beaucoup plus qu'à d'autres endroits, par exemple.
Qu'à d'autres endroits. On a reçu la semaine, il y a 2 semaines, Renzel...
Dashington.
Dashington, qui nous a parlé aussi de ses multiples interpellations. Il y avait un article dans la presse avec lui. Il nous parlait, c'était passé un peu en Nouvelle-Écosse aussi, avec la ville qui avait même interdit officiellement les interpellations aléatoires,
absolument,
entre guillemets. À Montréal, il y a eu le rapport du SPVM sur le SPVM qui est sorti cette année, en 2019. Mais on sent vraiment que ça avance très, très lentement. Mais au niveau du langage, comme tu dis... ils reconnaissent même pas le mot.
À tous les niveaux, tu sais. Moi, j'avais posé une question au Conseil de la sécurité publique il y a 2 ans. Au SPVM, l'état-major était là. Faut comprendre que le SPVM avait un plan contre le profilage racial, là, je mets en parenthèse, là, dans les 10 dernières années. Puis je leur ai dit, ben, dans les actions que vous avez prises, à part les formations, parce que je crois pas que les formations fonctionnent assez, parce que surtout les formations sont faites une fois par année, puis tu fais un cours, puis après ça...
Puis c'est à l'école de police, j'imagine.
Ben oui, en plus. Fait qu'ils font cette formation-là. Là, j'ai dit, sauf les formations, donnez-moi un exemple d'action que vous avez fait concrètement qui a réduit le profilage racial. L'état-major est pas capable de répondre. Ils ont zéro réponse. Puis pourtant, il y avait un plan.
Ouais.
Puis j'ai dit, ben, c'est quoi votre action? Ils ont rien. Ça veut dire que pour eux, c'est pas un problème assez important pour qu'ils puissent l'adresser. Quand tu te fais contrôler 4 fois plus que les personnes blanches, quand t'as une personne autochtone, une femme qui se fait contrôler 9 fois plus, là, tu dois te dire, ben, c'est quoi les conséquences pour ces personnes-là? Ça veut dire que si cette personne-là conduit son véhicule, puis elle a juste oublié ce jour-là de payer son permis, ben, son véhicule va être saisi.
Mm-hmm.
Right? Puis ça va être des amendes que ces personnes-là vont avoir pendant longtemps. T'sais, si la personne se promène dans la rue, tu vas avoir des tickets. En tout cas, j'ai pas besoin de donner tous les exemples.
Oui. C'est un enchaînement, là.
Mais c'est un enchaînement qui arrête plus. Mm. Et ça fait en sorte qu'on a une surreprésentation carcérale des personnes noires et autochtones dans nos prisons. Puis c'est pas à cause que c'est des personnes qui font plus de crimes. C'est parce que les personnes sont plus surveillées.
Oui, ils sont pris dans un engrenage aussi.
Puis ce qui m'inquiète aussi, il y avait une étude qui est quand même assez frappante, c'est à Toronto qu'on l'a faite, parce que j'aimerais savoir cette étude-là ici, c'est le nombre de personnes suspendues, expulsées des écoles dans la commission scolaire de Toronto.
Okay.
50% d'entre eux, c'est des personnes noires.
Mm-hmm.
Et pourtant, ils représentent seulement 14% de la population.
Évidemment.
Donc ça commence de très de bonne heure, tu sais. Et les impacts sont énormes pour ces personnes-là.
Mm-hmm. Non, c'est sûr.
ouais, bon, on va décourager le monde, mais allez voir mon film, c'est plus fun.
On va finir en le réannonçant, inquiète pas. Je voulais continuer dans les trucs plus ou moins joyeux. On parlait justement de l'attentat à Québec. On dirait que 3 ans après, la question de l'islamophobie, par exemple, c'est comme si on en avait parlé pendant quelques mois, c'est retombé. Puis là, moi, j'ai lu ton texte que tu avais fait sur le projet de loi 21, mm-hmm. tu as associé ça à du racisme systémique. Puis on dirait que c'est comme passé, puis peut-être dans 20 ans, on se dira que ça n'a pas d'allure, mais on dirait qu'il n'y a pas de prise de conscience vraiment réelle.
C'est incroyable. On a un moment dans un endroit où est-ce qu'on a énormément de radios poubelles, et on a une personne qui est influencée par un milieu mm-hmm. qui va faire un attentat contre des gens pour les tuer à cause de leur religion.
Ouais.
Et on parle de ça, et quelques temps après, c'est déjà oublié, on parle du projet de loi 21.
Mm-hmm.
Et c'est comme si la souffrance de ces personnes-là ne représentait absolument rien, comme si ces personnes ont perdu la vie pour aucune raison. Ben, bien sûr, c'est aucune raison, mais c'est qu'il n'y a pas eu d'actions qui ont été faites pour lutter contre l'islamophobie.
Non,
mais il y a eu des actions islamophobes,
ouais.
sans problème.
Des actions autant dans la rue de groupes extrémistes que du gouvernement.
Exactement, ouais. autant ouais. du gouvernement, puis tellement que les gens ont dit, ben, on est légitime, les actes haineux ont augmenté après les attentats de Québec, mmh. à Québec et au Québec.
Ouais.
Alors tu te dis, mais alors que ça aurait dû faire l'effet contraire, comment ça se fait que les gens ont pas fait comme, ok, on est allé un peu trop loin, ou lui, on sait que lui était allé trop loin, mais on veut s'assurer qu'il y a personne qui va aussi loin que lui. Faisons une campagne de sensibilisation. Ouais. Parlons de ce cas-là. On a même refusé de faire une journée contre l'islamophobie, tu sais.
Ouais. Ben, le premier ministre, sa fameuse déclaration en disant qu'il y avait pas d'islamophobie au Québec, quelques mois après les attentats, ou après le 1 an, ouais. je pense.
En plus.
Et là, hier, il a dit que son projet de loi 21, contribuait à pas contribuer, mais empêcher d'une certaine façon qu'il y ait plus de racisme parce qu'on encadrait les choses.
Mm-hmm.
C'est quand même pas mal. Hein?
C'est quand même... je sais même pas quoi dire.
Non,
par
c'est
rapport
fou,
à ce
hein?
C'est hallucinant.
Ça tourne en rond, puis ouais. on comprend pas trop. Hein?
Non, puis tu sais, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est facile de casser du sucre sur des personnes parfois qui sont loin de nous. Et on arrive à élire des gouvernements comme ça un peu partout à travers la planète. T'sais, je regarde les mouvements d'extrême droite qui grimpent partout en Europe. Je regarde aux États-Unis aussi qu'est-ce qui est en train de se produire. Et pendant ce temps-là, on parle pas des vrais enjeux qui nous touchent. Donc, c'est une manière de les éviter. Alors que les enjeux, on n'a pas une menace dans nos institutions, peu importe où est-ce qu'elle est, là, présentement. Il n'y a pas une religion qui nous menace, à part que, je pourrais dire, je vais pas la définir comme une religion, mais la question identitaire, à part celle-là, des fois, je trouve qu'elle commence à être borderline religion.
Ben, même la laïcité, ça commence à être une religion assez extrême, par bout, quand on entend les discours intolérants.
C'est quand même assez fulgurant de voir ça.
Ouais.
Fait que. Mais c'est ça. Mais, ouais. Puis moi, tu sais, je me questionne énormément parce que souvent, tu sais, quand on parle de ces enjeux identitaires-là, puis j'entends des journalistes toujours revenir là-dessus avec les valeurs québécoises, les enjeux identitaires. Puis moi, la question que j'aimerais leur poser, tu sais, la plupart du temps, mais c'est quoi ces valeurs identitaires-là?
Mm.
juste répondez-moi, est-ce qu'on peut les définir? Parce qu'une fois qu'ils vont les définir, ils pourront plus dire ces enjeux-là, parce qu'ils vont voir qu'on est pas mal dans les mêmes cases, peu importe notre religion, peu importe notre appartenance. Mais je trouve qu'il y en a qui misent tellement là-dessus pour diviser la population et pour avoir un vote de personne. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le dog whistle politics. Donc, on est en train de dire des mots sous le couvert, comme tu viens de dire. Puis, ça fait comme, ah ouais, ça, j'ai participé à ça, tu sais. Et on fait rien pour lutter contre ce que les personnes subissent en lien avec le racisme systémique que eux-mêmes vont professer à l'égard des autres.
Oui, puis sans parler des médias, évidemment, là-dedans.
Ah ben!
Ils sont une belle courroie de transmission, évidemment. Ouais.
On a des pros là-dedans. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le Journal de Montréal. Donc.
Dans Québécois, entre autres.
Québécois, hein? Effectivement.
Il y a une nouvelle radio, d'ailleurs, très intéressante.
Ah oui? Bon, t'écoutes ça?
Non, je l'écoute pas.
Ok, j'ai t'as beaucoup de temps libre.
Non, mais tu sais, quand on veut voir l'autre extrême, là, donc, pour voir l'équivalent de à Montréal de ce qui se passe à Québec, là. Mm-hmm. Donc, mais on n'encourage pas les gens à l'écouter, évidemment.
J'ose espérer, tu sais.
Écoute, merci Will pour tes lumières, pour ton analyse, la discussion, c'était super intéressant.
Ben merci pour l'invitation. Je pense que moi j'ai le goût de revenir. Je sais pas si vous avez
ben
goût.
Oui, écoute, on vous fait même aussi, on invite des gens à faire un billet d'humeur ou un texte d'un slam de 10 minutes. Fait qu'on pourra te réinviter si ça t'intéresse. Tu es assez créatif aussi, donc.
Ça m'arrive une fois de temps en temps.
Oui, t'as beaucoup de choses à dire. Donc, on rappelle que ton film, donc Ken Bella, Jusqu'à la victoire, est sur les écrans à partir de demain, 31 janvier, à la Cinémathèque à Montréal, et ensuite, tu vas être en tournée au Québec.
Oui, je m'en vais à Rimouski, je m'en vais à Rivière-du-Loup, puis à l'Apocatière, à partir de lundi, faire un tour pour justement faire voir ce film-là, pour que tout le monde puisse voir à quoi ça ressemble, cette belle communauté-là qui fait partie de la société québécoise aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce film-là, comme j'ai déjà dit, fait que j'espère que les gens vont apprécier.
Parfait, ben merci beaucoup, Will Prosper.
Merci.
À bientôt. Toujours sur les ondes de choc.ca, les apatrides anonymes. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Nos restants, pour être plus poli, la suite ou le complément du bilan 2019 des apatrides anonymes. Toujours sur les questions d'actualité en immigration, sécurité nationale et racisme. La semaine passée, j'avais parlé pas mal du fédéral. L'année 2019, les Sunnyways, les voix brunantes de la CAQ au niveau provincial. J'avais terminé avec le bon coup de l'année au Québec, selon nous, évidemment. C'est-à-dire la mobilisation contre la réforme du PEC, Programme Expérience Québécoise, qui avait, bon, un peu forcé la CAQ et surtout Jolin Barrette et Legault à reculer un peu, à stopper un peu leur ambition démesurée pour la réformette plus ou moins identitaire, comme disait Will tantôt. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle. Et je voulais quand même souligner aussi que tout au courant de l'année, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, a publié beaucoup d'articles sur beaucoup d'analyses sur la loi 9, la loi 21, les seuils en immigration, le test des valeurs. entre autres un certain Rémi Paulin, Toi et Roi, dont je vous ai lu plusieurs extraits au courant de l'année. Donc, je voulais souligner ce rôle aussi d'eux et de d'autres sites et de d'autres médias alternatifs de contre-pouvoir un peu par rapport aux gros médias et aux gros chroniqueurs du groupe Québécois, entre autres.
L'empire poubelle.
L'empire de la poubelle.
Excusez, je fais pas de phrases, je fais juste lancer des mots comme ça.
Des slogans, ok, ok. Donc, et vous dire aussi, on n'a pas parlé, mais le fameux projet de loi sur l'industrie du taxi aussi, qui avait été un peu à la même époque que le projet de loi 9 sur l'immigration, le projet de loi 21 sur quoi, donc, le projet de loi 21? Sur le projet de loi sur le non-racisme. Oui, voilà. Donc, non, ça aide.
C'est de l'ironie.
C'est de l'ironie avec ce qu'on vient de parler avec Will. Donc, sur tout ça. Et ce projet de loi sur le taxi, ben ça touchait évidemment une majorité des migrants qui sont chauffeurs de taxi et qui perdaient beaucoup, qui perdaient leur travail en partie, perdaient beaucoup d'argent, se retrouvaient marginalisés. Donc, quand on fait l'addition avec tous ces projets de loi-là, en début 2019, c'était assez élevé quand même comme attaque contre les immigrants, entre autres, de la part de la CAQ et de Jolin Barrette et de Legault. Sinon, au niveau local, je vais y aller avec ça, Simon. SPVM, on a parlé un peu avec Will Prosper tantôt, le fameux rapport qui ont été obligés de dire que c'était pas si faux que ça, mais qui ont trouvé d'autres moyens pour en parler. On en parlait dans les prédictions la semaine passée avec Marie-Ève sur le biais systémique là, et tous les termes qu'ils utilisent.
Ouais, pour lequel, lors de la divulgation du rapport, on avait refusé un conseiller racisé.
De l'opposition.
De l'opposition.
Qui était à la commission de la sécurité publique en plus. Oui, c'était très chic au quartier général du SPVM.
C'était très représentatif du climat actuel.
Oui, de la position de notre super police de Montréal. Il y a toujours beaucoup de recours collectifs, d'ailleurs, qui sont en cours contre le SPVM et la Ville de Montréal pour profilage racial. Il y a plusieurs personnes, individus, groupes de personnes qui font des poursuites actuellement qui vont finir par aboutir. Ça, c'est sans compter les gens qui contestent en déontologie, qui contestent leur arrestation. Donc, la Ville et le SPVM vont avoir plein les bottes dans les prochaines années, surtout s'ils n'agissent pas du tout sur le profilage racial. Peut-être, Simon, on pourrait y aller avec Marie-Ève, qui n'est pas là, mais qui nous avait préparé un petit aparté au niveau du racisme ordinaire décomplexé.
Oui, ben c'est ça, j'ai son texte là, je vais pas le lire textuellement là, je vais essayer de vous faire ça jazzy. Donc effectivement, comme phénomène marquant pour Marie-Ève, c'est le petit racisme ordinaire décomplexé au Québec, c'est comme ça qu'elle appelle ça. Augmentation des déclarations comportements racistes dans l'espace public de la part de monsieur, madame, tout le monde. Il y a eu, donner un exemple, Pierre Dion, un bonhomme de Terrebonne qui a diffusé sur les médias sociaux en janvier 2019 deux vidéos dans lesquelles il prenait la défense d'Alexandre Bissonnette, le terroriste du Centre islamique de Québec. Pierre Dion, ce sinistre individu, invitait également les Canadiens à sortir les musulmans du pays, qualifiant l'immigration musulmane d'invasion. Donc, je sais pas pourquoi on parle de lui, parce que en particulier, il était plus visible que les autres, mais si on va lire les commentaires dans l'Empire poubelle dont je parlais tantôt, sous les articles de TVA Nouvelles ou de tout ça, c'est truffé encore aujourd'hui à chaque nouvelle, la faute des musulmans, et il faut les tuer.
Il y en a même qui faut, des fois, il enlève l'article carrément parce qu'il y a trop de propos racistes, là.
Ouais, puis des fois, je pense, la fin de semaine, ils ont pas de modérateur, fait que là, ça s'empile, les commentaires qui appellent au génocide carrément, là, t'sais.
OK.
Ou encore l'exemple que donnait Marie-Ève, une famille musulmane de Laval qui a reçu une lettre anonyme menaçante par la poste quelques jours après son installation à Laval. Donc, dans une enveloppe non signée avec la mention au propriétaire, la famille avait trouvé la photocopie d'une chronique du Journal de Montréal qui porte sur le hijab. Donc, je ne sais pas si c'était de qui, de Durocher, de Martineau, de Boccoté et d'un autre agent de radicalisation comme ça. Puis c'était annoté au silo, arrêtez de nous affronter, on veut pas de hijab, abat le lavage des cerveaux, moi j'ai enlevé ma kippa sans chialer. Fait pareil. Puis l'autre exemple que Marie-Ève nous donnait, c'était en décembre dernier, l'histoire de Viviane Michel, présidente des femmes autochtones du Québec, qui avait dû confronter une caissière dans un Provigo à Longueuil parce qu'elle refusait de vendre de l'alcool à une amie de sa fille, parce qu'elle était autochtone.
Ouais.
Donc, conclusion de Marie-Ève, il y a lieu de se poser de sérieuses questions sur les raisons derrière ce petit racisme ordinaire, le fait que les médias de masse servent de tribune à des chroniqueurs comme Boccoté Martineau, etc., les animateurs de Radio Poubelle. Donc voilà, c'était son éditorial.
Ben c'est ça, oui, puis j'ai passé du SPVM au racisme ordinaire, parce que comme on jasait avec Will, ben quand les institutions et les politiciens, les élus comme la CAQ, comme le SPVM agissent ou votent des lois ou ont des comportements racistes ou discriminatoires ou xénophobes, ben c'est sûr que c'est facile pour n'importe quelle personne de dire, ben, y a pas de problème, je peux dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, puis je peux insulter des gens sur la rue, je peux leur envoyer des lettres par la poste dans leur boîte à lettres, je peux faire tout ça.
Ben, ça légitimise le racisme. Puis c'est même pas systémique, tant qu'à moi, c'est institutionnel, c'est encore un niveau plus élevé. Parce que systémique serait le résultat de différentes mesurettes, si on veut, mises ensemble.
Ben, on parle du système, donc c'est souvent une
Mais là, c'est enchâssé dans la loi, carrément.
Ouais. Simon, je vais te demander de donner ton exemple, toi aussi, de racisme local.
Ça va un peu dans la même veine que Marie-Ève. Moi, c'est le cimetière musulman dans la région de Québec, dossier qui date d'il y a plusieurs années. Ça avait essuyé des refus de la part de propriétaires fonciers, de la part de municipalités, de la part de l'opposition, de politiciens et de petits groupes de droite qui poussaient des grands cris aigus à chaque fois que le sujet était évoqué. Il y avait même eu un référendum dans la petite ville de Saint-Apollinaire avec une campagne du non dans laquelle la Meute s'était, et d'autres groupuscules d'extrême droite s'étaient impliqués. Et les citoyens, finalement, s'étaient prononcés contre le projet de cimetière musulman. On s'entend-tu pour dire qu'un cimetière, c'est pas ça qui dérange le plus dans le voisinage? Finalement, fin d'une saga pour la communauté musulmane de Québec qui aura duré plus de 20 ans. Fin de la saga en septembre 2019. Tout est canné, tout est approuvé, tout est signé. Le cimetière musulman va être aménagé à Sainte-Foy et les gens de la communauté pourront enfin, on l'espère, reposer en paix.
Oui, dont les personnes qui ont été tuées dans l'attentat de la mosquée de Sainte-Foy, justement.
Ah, je ne sais pas si elles vont être inhumées à cet endroit, mais il y a de fortes chances.
OK, sinon, ben, pour terminer sur le local, je veux quand même souligner toute l'espèce de saga autour de la ville sanctuaire à Montréal. Il y a eu une politique d'accès aux services municipaux sans peur qui a été lancée au courant de l'année 2019. Qui a été très critiqué parce qu'entre autres, le SPVM est exclu de la politique. Les autres fonctionnaires sont concernés, mais pas le SPVM. On parle de créer une carte d'identité pour les personnes sans statut, mais là, on risque de plus les identifier et de les marginaliser. Pas de les marginaliser, mais de les stigmatiser. Donc, vraiment, un échec au niveau de cette fausse politique de ville-sanctuaire. Donc, à recommencer complètement. On n'a pas eu de nouvelles, d'ailleurs, depuis plusieurs mois de la part de la Ville de Montréal et de Projet Montréal. Sinon, souligner aussi la lutte quand même assez forte autour de Solidarité sans frontières et de d'autres groupes contre la prison pour migrants à Laval, avec entre autres le fameux constructeur général Tisseur de Val-David qui a réussi à avoir une injonction pour pas que les gens aient manifesté son terrain à Val-David. Mais il y a une lutte qui continue à toutes sortes de niveaux. La prison est en construction, mais c'est quand même symbolique à Montréal au niveau de la question du racisme, immigration, frontière. Et peut-être vous dire que juste avant Noël, quelques petites nouvelles qu'il y a eu. François Legault a été pris un peu comme Justin Trudeau, j'en ai parlé la semaine passée, discrètement vouloir contester une décision de la Cour ont contesté une loi fédérale qui vise à céder le contrôle de la protection de l'enfance aux communautés autochtones partout au Canada. Et là, le gouvernement du Québec va en cours d'appel pour contester cette loi-là fédérale qui a été adoptée à la fin du printemps 2019. Donc, bravo, un peu comme Trudeau qui conteste le jugement par rapport au dédommagement pour tous les enfants autochtones en réserve qui ont été dans le système de protection de la jeunesse. Et peut-être on en parlera plus en 2020. La GRC en Colombie-Britannique avec toute la question du camp Unistoten de la nation Wet'suwet'en.
Gros dossier
dont on parlera sûrement avec peut-être des invités dans les prochaines semaines. Donc il y a plein de choses, on aurait pu continuer, mais on va aller en musique et on va revenir avec l'international et Simon. Donc on va écouter MIA avec la pièce Power.
Don't you wanna tell me if you're gonna put down your armor? Promise no more drama. Cut my hands, I say I'm the Dalai Lama. Cut my hands, say I'm not Obama. I'm not Osama. Monsoon typhoon. I don't drink the soda. I believe in karma. They try to shut me down, I still got the power. They try to hit me, but I still be that lover. I know my mind. Power. Got my finger and I'm taking on the tower.
C'est les restants 2019. Mathieu nous a fait le national tantôt. Là, je vous fais l'international. On avait commencé ça lors de la dernière émission que vous écoutez en balado sur choc.ca. Évidemment, vous aurez un complet plus portrait de l'année 2019.
C'est bon, un complet plus portrait, j'aime ça.
Un portrait plus complet. Ouais, je m'exprime bien. sinon, ça, je vous avais déjà parlé lors de la dernière émission un peu d'Afrique, d'Amérique centrale, des États-Unis. Il y a des décisions de justice importantes qui ont été rendues en 2019. Là, on est en Europe. Donc, l'acquittement de Mme Elena Maleno, je tenais à le souligner, qui est chercheuse, journaliste, militante pour les droits des migrants. Le gouvernement espagnol mettait beaucoup de pression pour que la justice marocaine la mette en prison. Ça ne s'est pas produit. C'est une excellente nouvelle. Un autre acquittement, mini-retour aux États-Unis pour souligner l'acquittement en novembre dernier de Scott Warren, militant de l'organisation No More Deaths. Il risquait jusqu'à 20 ans de prison pour avoir secouru deux migrants dans le désert d'Arizona. Un jury populaire l'a acquitté. Sur l'Europe, une autre petite nouvelle, il y a toujours, évidemment, de l'extrême droite raciste un peu partout. Mention spéciale au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche. Et toujours en tête du palmarès européen de la honte, la Hongrie, qui en 2019 a voté une loi qui interdit aux ONG de venir en aide aux personnes migrantes. Mathieu, toi, c'était un peu ton événement international marquant, la Hongrie, tu tenais à nous en parler.
Ben oui, parce que, oui, une loi qui a été votée donc au mois de juin dernier par ce super gouvernement de Viktor Orban. Tu m'entends bien, Simon? Oui. Donc, une loi qui a passé à grosse majorité avec l'aide du parti d'extrême droite Jobim, qui est l'allié du Fidesz, le parti de Orban. Mais c'est une loi parmi tant d'autres qui passe depuis plusieurs années, donc pour contre les migrants, contre les réfugiés, pour pénaliser les organismes aussi qui leur viennent en aide, comme tu disais. Il fait des citations racistes incroyables aussi. Il parle vraiment de l'Europe chrétienne versus l'Europe des mécréants. Là, c'est vraiment à ce niveau-là. Là. Il est anti-juif, anti-musulman, tout ce qu'on peut avoir. Puis on sait qu'il y a presque pas de migrants qui arrivent en Hongrie. Là. Il y en a eu... ils ont donné 105... il y a eu 105 personnes qui ont reçu le statut de réfugié en 2017. Là. C'est pas des farces.
Ben,
c'est
ça. En fait, il y en a beaucoup qui traversent en Hongrie, mais pour aller ailleurs. Là,
ah, ben de moins en moins, ils passent plus, là, tout simplement. Là. Ils ont vraiment fermé les frontières. On l'a vu il y a quelques années quand il y a eu la longue marche des migrants. Mais la bonne nouvelle, Simon, je voulais te dire, en terminant là-dessus, c'est qu'il y a eu un rêveur intéressant au mois d'octobre, Viktor Orban. Il a perdu la mairie de Budapest, premièrement, contre quelqu'un de l'opposition un peu plus, disons, centre-gauche. Mm-hmm. Et il y a eu des reculs un petit peu partout dans le pays, parce que l'opposition s'est mise dans des listes communes, fait qu'ils ont réussi à faire reculer son parti, le Fidesz. Donc, finalement, Orban est toujours président, mais ça commence à sentir peut-être un petit peu la fin, ou en tout cas un recul important au niveau électoral puis au niveau populaire. Donc, il a perdu plusieurs villes en plus de Budapest. Donc, il y a des lois qui ne pourront pas passer et il y a des municipalités et des régions qui vont pouvoir s'opposer à ces politiques. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle en fin d'année. Un revers électoral important pour Viktor Orban en Hongrie.
Donc, le cycle de la haine est peut-être en train de s'inverser en Hongrie, mais on voit l'extrême droite popper tout le temps dans d'autres pays simultanément. Donc,
Oui, puis lui, il y a une extrême droite à sa droite. En plus, un parti encore plus fou.
Fait carrément nazi.
C'est ça, néo-nazi. Exactement. Ouais.
Merci beaucoup, Mathieu. plus. Sinon, en Europe, ben oui, on a des frontières de plus en plus fermées. Un nouveau phénomène inquiétant qui a commencé à prendre l'ampleur en 2019, c'est les traversées de la Manche entre la France et l'Angleterre en embarcation de fortune surchargée qui parfois chavirent, parfois ont besoin d'assistance, exactement comme on voit en Méditerranée, mais dans une eau encore plus froide et avec moins d'infrastructures organisées pour faire du sauvetage, parce que bon, la plupart des gens qui viennent en aide aux personnes migrantes sont en Méditerranée. Donc, c'est un peu un nouveau phénomène. Il faut essayer de se repositionner. La Méditerranée, donc parlons-en. Les statistiques générales sont mitigées en 2019, donc on n'est plus dans les pics de la crise migratoire, pic absolu qui avait été atteint en 2016, où on avait eu 360 000 traversées et plus de 5 000 décès. Si on remonte l'année avant, 2015, on avait eu plus d'un million de traversées, mais pourtant moins de décès qu'en 2016. En 2019, la tendance se confirme encore. Moins de traversées, mais plus de décès en proportion, donc jusqu'à 8-9% des gens qui traversent meurent noyés. Ce qui s'explique par tous ces blocages et contrôles en mer qui font prendre des routes plus longues et plus dangereuses. La Libye attire des centaines de milliers de migrants parce que c'est un des principaux points d'embarquement des bateaux de passeurs vers les îles italiennes qui sont pas très loin de la côte libyenne. Malheureusement, la Libye étant maintenant l'épicentre de la traite des personnes et de l'esclavage, beaucoup de personnes migrantes n'embarquent jamais et plusieurs sont vendues. C'est un phénomène qui existait déjà en Libye, mais qui s'est amplifié et s'est confirmé être une tendance lourde en 2019. Une des conséquences des conditions affreuses en Libye, c'est que l'Algérie voisine est devenue en 2019 un des pays au monde qui reçoit le plus de migrants. Ça, c'est une statistique qui est passée un peu sous le radar. Donc, ouais. L'Algérie en reçoit à peu près autant que l'Europe au complet, selon certaines agences internationales. Il va falloir regarder ce qui se passe en Algérie en 2020. Mm-hmm. L'Algérie est passée en 2019 de pays de transit à de plus en plus pays de destination où s'établissent des gens en provenance du Sahel, du Moyen-Orient ou d'ailleurs au Maghreb. C'est ce qui met fin déjà à ma revue internationale. On avait fait déjà un bon bout de chemin lors de la dernière émission. Donc, j'ai quelques vœux pour 2020, qu'il n'y a pas trop de catastrophes naturelles, que les ONG volontaires bénévoles qui essaient d'aider les migrants aient davantage de moyens pour le faire et que les gouvernements arrêtent de mettre des barbelés partout. Ça fait juste blesser les gens, mais ça n'empêche pas de traverser nécessairement. J'aimerais ça que Salvini soit pris dans un scandale avec des petits garçons puis des drogues qui sonnent vraiment comme méchantes et illégales. Question que sa base populiste catholique romaine soit un peu dégoûtée. Donc voilà pour la revue internationale 2019.
Merci Simon. Donc on passe à quelques notes de musique et on vous revient avec une apparition surprise de Marie-Ève.
Cool.
La semaine concerne une nouvelle qui est plutôt passée inaperçue en décembre dernier, soit la poursuite que George Zimmerman a décidé d'intenter contre la famille de Trayvon Martin, jeune homme noir assassiné par Zimmerman en février 2012. Commençons par un petit rappel des faits, histoire de nous mettre toute cette histoire en mémoire. Le 26 février 2012, alors qu'il est surveillant de voisinage dans un quartier protégé, ces fameuses « gated communities », dans le comté de Stanford, en Floride, George Zimmerman fait feu sur Trayvon Martin, 17 ans, qui est en visite chez son père. Zimmerman clame la légitime défense et ne sera formellement accusé d'homicide involontaire que 2 semaines plus tard. Le procès débutera plus d'un an après la mort de Martin, soit le 24 juin 2013, et 3 semaines après, Zimmerman sera reconnu non coupable par un jury. On se rappellera que l'assassinat de Trayvon Martin, le procès de Zimmerman ainsi que le verdict avaient déclenché une vague de manifestations à travers tout le pays. Donc, pour revenir à mon mauvais coup de la semaine, le 4 décembre dernier, Zimmerman a donc engagé des poursuites judiciaires contre les parents de Trayvon Martin, les procureurs de l'époque ainsi que les autorités policières de la Floride. Il les accuse principalement d'avoir conspiré pour le piéger en présentant un faux témoignage et il demande 100 millions de dollars en dommages. Fait intéressant à noter, c'est que l'avocat qui représente Zimmerman est nul autre que Larry Klayman, qui est un ultra-conservateur bien connu pour ses positions conspirationnistes et son opposition radicale à l'ex-président démocrate Barack Obama, dont il avait suggéré l'expulsion des États-Unis. Autre fait légèrement macabre, c'est que en 2016, Zimmerman a mis aux enchères sur le site United Gun Group l'arme à feu qui a servi à assassiner Trayvon Martin. Rien de moins. Bref, vous serez sûrement d'accord avec moi que pour dire que M. Zimmerman est un homme doté d'une très grande sensibilité. Ultimement, que les accusations lancées par Zimmerman s'avèrent fondées ou pas, reste que son acharnement envers les parents de Trayvon Martin est proprement scandaleux et ignoble. La famille Martin a perdu un fils et Zimmerman, lui, a été acquitté. Ce procès ne fait que rouvrir des plaies encore trop douloureuses. La moindre des choses serait que, faute de justice, la famille puisse vivre son deuil en paix.
Les apatrides anonymes, il nous reste quelques minutes avant de vous quitter pour vous reparler dans deux semaines. La semaine passée, on a fait les prédictions avec Marie-Ève, c'est Marie-Ève qui les avait composées. Il nous restait une question que je vais vous lire rapidement. Il y a des choix de réponse et Simon a une bonne réponse. Donc, qu'adviendra-t-il du programme Immigrants Investisseurs qui a été suspendu en octobre et ce jusqu'en juillet 2020 pour cause de nombreuses anomalies? Ce programme-là, pour être admissible, un candidat étranger devrait disposer d'un avoir d'au moins 2 millions de dollars. Par ailleurs, ces personnes qui doivent avoir l'intention de s'établir au Québec devraient faire un prêt de 5 ans de 1,2 million à Investissement Québec. C'est un peu technique, mais il faut donner beaucoup d'argent. À l'échéance de ce placement, cette somme sans intérêt était retournée au candidat qui pouvait demander sa résidence permanente. Donc ça, c'est suspendu pour l'instant au provincial. Dans les choix de réponse que Marie-Ève nous donnait, qu'est-ce qui va arriver avec ce programme-là? Il sera reconduit tel quel, car c'est bon pour l'économie.
Tu comprends,
hein? Il sera reconduit tel quel parce que les immigrants, c'est en fantôme qu'on les aime, parce qu'ils sont pas souvent là, c'est des riches qui ont d'autres choses à faire. Et le prêt sera versé directement au gouvernement pour construire un mur au chemin Roxham. Ou autre, Simon?
Ben moi, autre, évidemment. Donc, je pensais qu'on pourrait élargir et bonifier le programme des investisseurs pour financer le troisième lien.
Ah, qui a changé de tracé hier, d'ailleurs.
Ben ouais, peut-être qu'on pourrait faire deux troisièmes liens aussi.
Oui, et en faire un aussi. Un nouveau à Montréal. On a besoin d'un nouveau pont à Montréal, Simon.
Oui, toujours.
Hein, l'étalement urbain. Donc, voilà pour les prédictions. Peut-être qu'on en aura d'autres dans le courant de l'année. C'est quand même un concept intéressant, puis ça nous permet d'allier humour et actualité et de rire un peu de ceux dont on aime rire à large gorge déployée, dis-je. Donc, c'est la fin de l'émission. Je rappelle aux gens qu'ils peuvent nous réécouter en balado sur les chutes de choc, sur notre site apatridesanonymes.info. Ils peuvent nous rejoindre par courriel à apatridesanonymes@resist.ca et sur notre page Facebook, Les Apatrides Anonymes. Soyez amis avec nous et écoutez nos émissions. Et aussi, on met des textes d'actualité, toutes sortes de trucs dont on parle à l'émission sur notre page Facebook aussi.
Je like les apatrides.
Oui, exactement. On aime les apatrides. Donc, on se reparle donc dans deux semaines, le 13 février. On n'aura pas d'invité. On va se faire une émission vraiment d'actualité. On a beaucoup de choses à rattraper depuis le début de l'année. Hein, Simon?
Retour de Marie-Ève aussi.
Retour de Marie-Ève en direct, parce qu'on l'a entendu quand même aujourd'hui.
Oui.
Donc, merci Simon.
Ben merci, bonne soirée tout le monde.
Ben oui, on a fait ça à deux, puis ça s'est bien passé. Puis on remercie encore Will Prosper, notre super invité de la première demi-heure. Donc, on va vous laisser avec de la musique sur les ondes de choc.ca. On vous souhaite une très belle soirée et à dans deux semaines, le 13 février. On écoute les Diamond Rugs, la pièce Give Me a Beer, super groupe avec des membres entre autres de Black Clips, Six Finger Satellite et Los Lobos.